Moi, en fait, je me suis au casseur et à salle. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous compatir, on fait ce langage. Donc, en combinant les deux, ben, j'ai de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le gouvernement de la RDC a totalisé 100 jours le week-end dernier. Au cours d'un point de presse tenu à cet effet, le Premier ministre a qualifié de satisfaisant le bilan de 100 jours de l'action gouvernementale au regard des performances réalisées. Toutefois, le chef du gouvernement a reconnu que le chemin à parcourir est long et le gouvernement va mener autrement ses actions dans la perspective de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais. Selon vous, ce bilan est-il encourageant ou contrasté? C'est la question du débat. Réagissez déjà, notre standard est ouvert. Composez le 081 890 6315. Vos critiques, questions et préoccupations, faites-nous parvenir à notre courriel pa@radiocapi.net et déposez aussi vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou, Jean-Claude Tiala et Comtesse Matouba réalisent cette émission. J.R. Lungembo vous la présente et Ben Kabamba la supervise. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Au terme des 100 premiers jours de l'avis du gouvernement Matata, les avis sur son action divergent entre ceux qui sont optimistes suite aux premières décisions relatives à la rationalisation des dépenses publiques, la promotion de la bonne gouvernance, l'établissement de la paix dans la partie est du pays et ceux qui s'interrogent sur la capacité de ce gouvernement à répondre aux grandes aspirations des citoyens. Nous avons en ligne le premier auditeur qui ouvre ce débat, Dr Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Docteur. Docteur Richard, bonjour.
Oui, bonjour, J.R.
Voilà, selon vous.
Bonjour à tous les auditeurs. 100 jours du Premier ministre Matata Ponyo, si on ne fait pas dans les 100 jours la guerre de l'Est, c'est 100 jours pour rien. 100 jours pour rien, pourquoi? Parce que cette rébellion a fait 3 mois. Et le gouvernement a fait 100 jours. C'est-à-dire, après 10 jours de travail, le gouvernement était confronté à cette guerre-là. Donc, ce qui est prioritaire, c'est la guerre. Ce n'est pas ce qu'on va nous présenter.
Mais vous voulez dire quoi concrètement, Dr Richard?
Répétez un peu la question parce que non. Je suis dans des conditions un peu difficiles. Je suis dans un taxi bus qui fait beaucoup de bruit.
Ben voilà. Donc, je disais, vous voulez dire quoi concrètement?
Oui, rappelez-moi peut-être dans 20 minutes.
Voilà, merci. Nous avons beaucoup de réactions. Georges Moulissa dit ceci. Le bilan de 100 jours de Matata est négatif car depuis qu'il est au pouvoir, rien n'a changé. Aucun ministre interpellé, aucun ADG suspendu pour détournement de fonds. Au contraire, le pays sombre dans la misère et l'insécurité. Et comme chantier à emploi, il nous propose l'armée. Moïse Diparquet de Goma, son bilan est très serré à cause de la mégestion de son gouvernement face à la crise de l'Est. Mwamba Noé de Kinshasa, je trouve que Matata Ponyo est comme l'objet, donc pour les Congolais, je lui conseille de voir les choses peut-être autrement. Abraham le patriarche, votre emploi ou quoi, rien n'a changé. Donc nous tournons toujours, on fait du sur place. Voilà, nous avons Amissi qui est à Kindu. Bonjour Amissi.
Bonjour monsieur le journaliste.
Oui, selon vous, ce bilan est-il encourageant ou contrasté?
Ok, merci monsieur le journaliste. Le bilan, en vérité, le bilan est négatif. Dans le bilan, c'est le sujet à dire à Matata Ponyo de démissionner. Parce que tout ce qu'il nous a promis, rien n'a été fait. Sur le plan sécuritaire, depuis qu'il a prêté serment, depuis qu'il a été investi au pouvoir, il n'avait pas de rébellion. Mais juste qu'il est entré au pouvoir, à l'Est, tout l'Est était mouvementé par le sous de balle. Voilà, aujourd'hui, cette rébellion quitte une partie du territoire. Et cette armée-là ne refuse pas cette rébellion, et la rébellion continue toujours à menacer l'Est. sur le plan social, souvent les militaires ne sont pas bien payés, les fonctionnaires ne sont pas bien payés, mais vous allez voir que les salaires, enfin ma tata, c'est le même salaire qui continue jusqu'à présent. Vous allez voir ici, ma tata a dit ceci, il a stabilisé le prix sur le marché, la monnaie est stable. Moi je trouve que cette stabilité de la monnaie, cette stabilité du prix au marché, juste pour favoriser cette équipe gouvernementale, parce que ce sont ceux qui ont de l'argent, ce sont ceux qui achètent les histoires, mais les pauvres sont toujours à souffrir. À quoi vaut déstabiliser la monnaie, à quoi vaut déstabiliser le prix pendant que la population ne possède pas cette monnaie-là, n'est pas possède cette monnaie-là. Et sur le plan des infrastructures routières, rien, même pas un kilomètre. Est-ce qu'il peut nous dire que la fonction est un kilomètre dans quelle province, dans quelle ville? Rien, rien n'a été fait. Aujourd'hui, pour voyager, c'est toujours un grand problème. À Tindou, par exemple, un kilo, si le fait que là, c'est $2. Voilà, c'est grave. Comment un commercial explique Tindou, par exemple, à partir de la ligne aérienne? L'histoire de tout ce qui est bon, à Tindou, par voie aérienne. Mais un kilo, $2. Comment se dit que voilà, un commerçant fait baisser le prix au magasin pendant que un kilo est énormément cher. Voilà, il faut aller plus loin encore aux écoles. Les dons n'étaient pas supprimés. Les dons continuent. Pour le moment, les parents se coupent à 4 morceaux pour préparer la rentrée scolaire. Rien n'a été fait sur ce plan-là. Vous avez les dons qui bougent les parents pour le moment. Tracas, bougent les budgets de la maison. Vous allez voir que si ce métier-là nous avait promis une bonne vie, une meilleure vie, je pense que ça devait commencer d'abord à l'école. Payer les enseignants, supprimer les dons, et supprimer tout ce qui cadre avec support ou dons des parents.
Oui, merci à Missy. Nous retenons une chose. Vos propos, c'est en contrario avec le bilan qu'a présenté le chef du gouvernement, surtout en matière de l'environnement macroéconomique. Le Premier ministre avait noté le respect par le gouvernement de la politique budgétaire, porteuse de la croissance économique, qui a contribué d'ailleurs, selon lui, à la maîtrise du taux d'inflation et d'échange. Donc vous pensez plutôt que ce n'est pas réel, ce n'est pas une réalité sur le terrain. Merci à Missy de nous avoir appelé des Kindou. Fiston, vous êtes à l'ICACI. Bonjour, Fiston.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment réagissez-vous? Comment réagissez-vous?
Je voulais dire, c'est on sait quand on nous parle de 100 jours. En 100 jours, il y a des Congolais qui meurent à l'est de la République. En 100 jours, il y a des gens qui ont encore des soucis quand on nous parle de 100 jours. C'est honteux. Quand on nous parle de 100 jours, les députés que nous avons votés, les ministres autres, ils vont bien payer, viennent en France, étudier à l'Europe et en Amérique, mais les Congolais qui se trouvent à l'aise. Ce n'est pas le problème de 100 jours. C'est le problème d'éranger les choses. Et c'est le premier ministre. Même les 100 jours, c'est le sens que c'est le sens de Congolais qui entrent des coups à l'Est de la République. C'est ce que nous demandons. Et le premier ministre et notre président de la République, il s'est arrangé les choses qui se passent à l'Est. C'est un peu incroyable. Il n'y a pas problème de 100 jours, même 200 jours, même 3 millions de jours. Ça va, c'est pas extrêmement comme ça.
Oui, Fiston. Tout de même, le chef du gouvernement l'a reconnu. C'est vrai qu'il a mentionné qu'il y a quand même une percée diplomatique sans précédent et a permis quand même d'identifier les auteurs de l'agression de la RDC. C'est vrai, il y a des navettes qui s'effondrent, mais tout en reconnaissant qu'il y a beaucoup de choses à faire pour retrouver quand même la souveraineté de l'État.
Mais c'est les journalistes, ça ce n'est pas question. Nous, notre souci est qu'on puisse arranger les choses qui se passent à l'Est. Un point est prêt. Il y a les frères, les sœurs, les cousins qui ont fait de faire de leur vie là-bas. Hein? On ne peut pas rester seulement comme ça en train de parler de 100 jours. 100 jours, ça ne doit rien nous amener.
Merci.
C'est rien du tout.
Oui, merci.
Nous, on vit en France ici. Mais c'est François Hollande. Il a ce qui c'est pas pour moi. Il y a des choses qui sont en train de se ranger. à côté du centre. Mais ici, nous parlons seulement de 100 jours. Mais quelle différence? Qu'est-ce qui se fait?
Donc, Sophiton, selon vous, rien n'est fait, même quelques initiatives prises par le gouvernement, ça vous dit absolument rien. Oui, si vous pouvez éteindre votre poste récepteur. Si vous pouvez éteindre votre poste récepteur. Ben voilà, merci Fiston. On retourne du côté de Samy. Hein. Samy, vous êtes à Matadi. Bonjour Samy.
Bonjour papa.
Oui, comment réagissez-vous?
Bon, moi, mon intervention est celle-ci. Donc, si nous remarquons que le président fait un bilan, soit disant qu'il a réussi 60% dans l'ensemble de ses ministres. Mais c'est regrettable. Sur les 60%, je ne sais pas sur quel point, puisque d'abord, le social, quelque chose qui coûtait au mois de janvier, c'est une boîte de sardines, 450 francs, aujourd'hui 900 francs. Même si je dis qu'admettons que les macroéconomiques, les taux d'échange est stable, mais ce n'est pas vrai. Parce que les biens sur le marché augmentent. Je vous donne l'exemple. Ma propre vie, quelques mois, j'ai une petite famille de 6 et de 4 enfants. Moi et madame, auparavant, on dépensait, avec tout ce que nous avons construit à la maison, 3 500 francs, mais aujourd'hui, c'est impossible, il faut dépenser plus de 6 000 francs pour vivre la journée. Et aujourd'hui, on nous parlait qu'il a réussi. Bon, 60% de son bilan. L'insécurité à l'aise, c'est un point capital, oui. L'insécurité à l'aise, c'est un point capital. Alors que rien qu'avec l'insécurité, en tout cas, on ne peut pas se doter de 60%. C'est un point qui est très capital. Donc, peut-être 60% pour eux qui sont dans les institutions, ils vivent mieux. Alors, pour nous qui sommes à la base classe, je crois que c'est un peu difficile. Donc, le 60% qu'il a donné, c'est vraiment c'est moquer des peuples congolais.
Voilà, merci Samy. Là, vous rejoignez d'ailleurs le point de vue de votre prédécesseur, hein, à Missy, et Fiston, qui a été d'ailleurs enchéri par Missy, en disant que les problèmes clés qui devaient normalement trouver solution, c'est notamment l'insécurité à l'Est, hein, donc il fallait l'établissement de la paix à l'Est, aussi longtemps que ces problèmes n'est pas encore résolu, donc les gouvernements ne peuvent pas employer les 60% dont ils ont signalé lors de ce point de presse. Merci Samy d'avoir appelé. Théophile, vous êtes à Kananga. Bonjour Théophile.
Bonjour Jeff, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Et comment réagissez-vous?
Oui, moi, je rappelle ce que je dis toujours, les Congolais sont tentés par un esprit de pessimisme. Parce que le terme bilan, à mon avis, peut se définir comme étant une évaluation de ce qu'on a fait pendant une période déterminée. Donc, le Premier ministre a fait le bilan de 100 jours. Les Congolais voient ce bilan-là comme étant une vision générale de réalisation du gouvernement. Non. Le bilan de 100 jours, le Premier ministre a voulu montrer aux Congolais que pour ce que nous avons déjà prévu, nous avons fait ça, et nous arriverons à faire comme nous avons déjà prévu. Donc, les Congolais, même la plupart des intervenants, ont une vision individuelle et sectorielle. Or, nous devons avoir une vision globale et générale. Parce qu'en principe, il faut éviter quelque part pour arriver à un objectif déterminé. Donc, moi, je pense que le Premier ministre, au vu de ce qui est fait, hormis la direction de l'Est, qui est un dossier très complexe, très multiforme, donc, ils ont fait quelque chose et nous espérons qu'ils doivent continuer avec ce plan-là et nous arriverons à un résultat satisfaisant d'ici la fin de leur mandat.
Voilà. Théophile, selon vous, quelles sont les actions qui vous ont beaucoup plus attiré, déjà amorcées par le gouvernement, parce qu'il faut quand même le dire, même si on veut aller plus loin, il faut quand même commencer quelque part, hein.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus attiré pendant ces 100 jours?
Je me rappelle, vous avez parlé de l'infrastructure autrefois. Je vous ai dit que dans le temps, il n'y avait pas de possibilité d'effectuer le voyage par camion, par véhicule de Canaan, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est le matin, on part à 7h, à 18h, 20h, on est déjà à Ticabon. C'est une petite réalisation, mais c'est quelque chose qui a réduit la durée du calvaire de voyageurs. Et si je peux encore donner un autre exemple. Lorsque les enfants présentent les examens d'état, et dans une semaine, deux semaines, les résultats arrivent, c'est pas quelque chose. Si, je donne trois exemples. Les travailleurs qui se plaignent effectivement de leur salaire par les comptables des agents payeurs. Aujourd'hui, un travailleur va à la banque qui reçoit son salaire sans déduction. Ce n'est pas une réalisation. Voilà, on imagine ce que les Congolais doivent considérer comme un bon départ. Voilà.
Merci beaucoup, Théophile, d'avoir appelé les Kananga. Théodore, vous êtes en Boujimaï. Bonjour, Théodore.
Bonjour.
Oui, comment réagissez-vous?
Pour moi, je pense que le gouvernement ne pouvait pas, alors qu'il est, prétendre, donner son bilan. Donner son bilan et déclarer cette saison. Il fallait peut-être attendre six mois ou deux mois pour se prononcer à cette saison. Ils ont un problème de cette
situation. Oui, Théodore, parlez un peu fort, hein. Dynamisez un peu votre voix, parce que là, vous saisissez à peine.
Ok, je disais que le gouvernement ne pouvait pas, alors qu'il est, prétendre donner un bilan satisfaisant. Il fallait peut-être attendre 6 mois ou 12 mois pour se prononcer à ce sujet. Vous savez, ils ont un problème de sécurisation. Ils ont d'abord un problème de sécurisation et de nos frontières, pas d'intégrité territoriale, plusieurs restrictions dans les chefs des officiers militaires, l'absence de la politique diplomatique envie de créer un partenariat fort. La mesure, par exemple, de garder 4 services de l'État au port, aéroports ne sont pas respectés à demander ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et vous savez aussi sur le plan agricole, tous les tracteurs mal utilisés devraient être récupérés pour une nouvelle relance agricole. Et jusqu'à ce jour, rien n'est fait.
Voilà. On a un petit problème là avec notre communication là. Okay. Voilà, c'est pas vraiment fluide, hein. Ben voilà, peut-être que c'est un peu de changer votre position.
Oui, j'ai changé.
Allez-y.
Oui, il y a des gens qui ont été réveillés à la baisse.
Voilà, on sera obligé peut-être de remonter l'antenne avec vous. On prend Jean Médard qui est à Béni. Bonjour Jean Médard.
Bonjour, Dossassi, bonjour, c'est Jean-Luc Fofou, le directeur de Dossassi.
Voilà, est-ce que, Jean Médard, vous avez un commentaire dans le sens de vos prédécesseurs ou peut-être vous avez d'autres éléments à ajouter?
Vraiment, nous sommes sur la même ligne. Je vois que le premier ministre lui-même a reconnu que le chemin est encore long. Vraiment, c'est très difficile de lui donner lui-même 60%. C'est nous, la population, qui devons. Voyager, lui donner le pourcentage qu'il a. Mais pour moi, je vois que c'est encore trop tôt de valider ce qu'il a fait. Alors, beaucoup ne marchent plus encore, surtout comme nous qui vivons sur l'Est. La sécurité, partout il y a des jalousements, des tueries, de la guerre, surtout qui nous préoccupe à l'Est aussi, qui est la bombe à la mission. Du côté enseignement, la mécanisation des enseignants, on ne va pas. La gratuité des élèves et des écoles primaires qu'on a parlé depuis longtemps, depuis le début du premier mandat, jusque-là, il n'y en a rien que nous voyons. Le chef, l'argent qu'il a exercé sur le marché, si il y a bien, il peut peut-être une seule personne sur lui qui a avoir cet argent. Nous ne voyons rien.
Jean Médard. C'est vrai que le chef du gouvernement l'a reconnu, il est, c'est vrai, sur plusieurs fronts, mais il ne peut pas, par un coup de bateau magique, résoudre tous les problèmes à la fois. C'est pourquoi il a même dit, qu'il a même rappelé, il a d'abord reconnu que le chemin, comme je l'ai dit, à parcourir est trop long. Et pour arriver au point, le gouvernement va mener autrement ses actions dans la perspective de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais. Donc je crois que c'est quand même le souci, hein, ils ont ça à cœur. pour amener quand même des actions à pouvoir voilà, changer
quand même de condition de vie. 60%, il devait y avoir 40% avant, mais pas 60%. Beaucoup n'ont même pas encore beaucoup réalisé. On attend à 6 mois ou à une année, ça va nous falloir quand même donner une évaluation qui est valable.
Oui, alors, quand vous donnez au gouvernement 40%, vous tablez sur quel point, quelle rubrique qui ont marché, quels sont les éléments perceptibles que vous avez, vous, personnellement, jugé positifs?
Bon, les éléments qui sont un peu bien, vous voyez, la stabilité de la monnaie, ici chez nous, la monnaie toujours à 90, depuis notre pouvoir. Alors là, je vois ça va quand même, et puis, les carburants, par exemple, nous utilisons les motos de voiture, nous consommons les carburants un peu à un beau prix là, et nous étions, avant, c'était à 1 800 $, maintenant, c'est en dessous de 1 $, $2 à 1%. Alors là, ça va quand même.
Voilà, mais le souhait pour vous, qu'on puisse mettre aussi à cœur, avoir à cœur le dossier de l'insécurité à l'Est, hein, donc de pouvoir travailler à l'établissement de la paix dans cette partie du pays. Merci Jean Médard d'avoir appelé. Gabriel, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Gabriel.
Oui, bonjour, monsieur Jean.
Oui, comment réagissez-vous Gabriel?
Oui, monsieur Jean, c'est bilan du premier ministre. Et comme d'habitude, tout est service. Mais en pratique, c'est du désastre. Pratiquement, avec la situation qui se passe d'insécurité à l'Est, c'est pas seulement à l'Est, c'est dans toute la République, le pays vraiment n'est pas en paix. Et cela montre à suffisance que c'est un échec. C'est un échec. Alors, on en a autant écouté de tels discours. Alors, pour moi, je crois qu'il serait mieux de démissionner car, dit-on, le débit marque la fin. Enfin, qu'il se parle à une réaction plus vastoche du peuple.
Voilà. Oui, Gabriel, pensez-vous qu'une démission, ça pourrait être vraiment un acte responsable pour des gens qui ont pris à cœur le problème? Et je crois que dans les 100 jours, est-ce que c'est vraiment réel qu'on puisse déjà évaluer quelqu'un et aussi prendre une décision de ce genre?
Oui, c'est possible parce que si nous laissons continuer comme ça, moi je ne crois pas que, j'accorde peu de chance, je ne crois pas qu'il y aura vraiment une solution à plus de 100 jours. 100 jours, c'est beaucoup, monsieur.
Voilà, Gabriel, merci. Nous reconnaissons que vous êtes pessimiste, hein, et pour vous, c'est quand même un bilan qu'on a fait, un bilan qui n'est pas satisfaisant d'après les propos de chef de gouvernement. Antoine Roger, vous êtes en Bougimaï. Bonjour, Antoine.
Bonjour, c'est le journaliste Gérard Poul, je dis que je m'appelle Solo et ma belle poisse à Pascal.
Oui, comment réagissez-vous, Antoine?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Vous savez, notre pays est très proche. Le premier ministre Matata Ponyo se précipitait à ces choses. Dans ce jour, il n'a rien fait. D'abord, il avait dit qu'il aurait fait à l'hiver qui est aujourd'hui heureux. Oui, monsieur.
Ben voilà, on vous suit, mais on ne saisit pas du tout vraiment. C'est que vous. Bon, peut-être on va encore essayer, hein, Antoine, allez-y.
Oui. Les 100 jours étaient insuffisants. Il a été donné 3 jours qui étaient faire ce qu'il avait promis pour faire à la démocratie du Congo.
Voilà, on retient que pour les 100 jours, c'est pas beaucoup, hein, donc il faudrait quand même qu'on accorde au gouvernement encore les 300 jours, donc vous voulez dire plus de 6 mois, donc 6 mois pratiquement, pour évaluer, pour procéder à l'évaluation des actions du gouvernement. Merci Antoine Roger. Arsène, vous êtes à Kikuit. Bonjour Arsène.
Bonjour Roger.
Oui, comment réagissez-vous Arsène?
Merci. Je suis le point de presse du Premier ministre. Je suis un tout petit peu déçu. Pourquoi déçu? Parce que le Premier ministre a commencé d'abord par se faire évaluer lui-même. Ce n'est pas à lui de faire l'évaluation de ses actes. C'est à la population, c'est à nous qui subissons de faire l'évaluation. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Le problème chez nous ici, il y a un grand fossé qui se trouve entre les concepteurs et ceux qui appliquent. Il y a un grand fossé. Monsieur le Premier ministre a établi un programme. Il devait exécuter ce programme-là. C'est toute une théorie qu'il a énoncée et il est vraiment enfermé dans cette théorie et il commence à se faire donner des points sur cette théorie. En pratique, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Sur le terrain, il n'y a rien. Au point de vue sécurité, le pays est en guerre. Est-ce que nous avons gagné du terrain ou bien nous avons perdu du terrain? Est-ce que l'intégrité du territoire est correctement respectée ou non? Je crois que pas. Là, vraiment, en tout cas, on n'a pas à discuter là-dessus, il a échoué. Parce que nous avons besoin de notre territoire. Le deuxième point de vue, sur le plan économique, ce ne sont que les théories qu'ils ont apprises à l'université. Et la maman qui se trouve au marché là-bas avec un peu de oignons à vendre là-bas, est-ce qu'elle a compris ce que le premier ministre a dit? Ce qu'elle a besoin, c'est de voir qu'elle achetait à 200 francs, maintenant elle achète à 50 francs. Et la cuisine, les mamans qui vont au marché, est-ce qu'elles ont senti ce programme macroéconomique? Je crois que non. Là aussi, il a échoué. Prenons encore un autre cas, le cas social.
Mais Arsène, s'il vous plaît,
s'il
faut parler alors de la maîtrise du taux d'inflation et d'échange, tout le monde, ça ce n'est même pas une théorie, on le voit même sur le tableau, le taux est resté à 90, 92, ça n'a pas bougé.
Ah, le taux d'échange, ça c'est sacrifier la population. C'est sacrifier la population, comment? On retient, on essaie un peu de maîtriser le taux d'échange. Mais au même moment, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas payer les travailleurs, on ne sait pas le salaire. D'abord, on ne paye pas. On saura comment on saura augmenter le salaire. Hein? À part ça, qu'on achète de plus? Non. Vraiment, en tout cas,
c'est le plus
produit. Donc, c'est faussé.
Oui, Arsène, ce n'est même pas un secret. La bancarisation de la paye des fonctionnaires. La bancarisation de la paye des fonctionnaires, c'est quand même ce sont là des avancées quand même.
Oui, bon, ce sont des inventions congolaises comme on a l'habitude. On va bancariser. Ok, d'accord. Il y a combien de banques ici au Congo? Est-ce que les fonctionnaires qui se trouvent là-bas au fin fond du village, nous, ici, nous n'avons pas de banques? Nous avons toute une province qui manque de banques. Combien ils seront payés? Est-ce qu'il a évalué il y a combien de banques au fin fond du pays? Il n'y en a pas.
Alors, un commentaire sur l'amélioration du climat des affaires. Là aussi, il faudrait quand même le dire, nous avons maintenant accès à l'OADA, aux instruments juridiques d'adhésion à l'OADA, on a tout ça. Ça rentre quand même dans le compte de l'actif de ce gouvernement.
Ok, monsieur, vraiment, des fois, c'est un peu amusant quand on passe sur la radio, on peut voir un peu tout ce que vous dites là. Le climat des affaires. Le climat des affaires ne peut être qu'appuyé sur deux grands points. Vous savez, là où il y a du bruit, l'argent fuit. Chez nous, il y a du bruit. Des bruits de bottes, des bruits de canons. Qui va venir investir comme la PLZ investissait la fois passée, hein, pendant plusieurs années? Qui viendra investir comme l'Union Minière, hein? Ce sont des petits commerçants qui viennent des aventuriers. Ils ne construisent même pas, ils ne savent même pas de leurs travailleurs.
Voilà, enfin, donc nous retenons que, selon vous, le bilan est encore contrasté, et ce n'est pas un bilan très négatif, voilà. Merci Arsène, ce sont vos propos. Nous prenons Ernest qui est à Matadi, donc on va terminer cette première série des auditeurs avec Noé qui a tout ça. Mais tout en vous rappelant que vous pouvez également nous rejoindre au 081 800 90 63 15.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Nguema.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour Ernest.
Bonjour Monsieur Pierre.
Voilà Ernest, comment réagissez-vous?
Bien, je pense que le bilan a été présenté par les capitaines de cette nature, mais nous pensons qu'il devrait répondre à des questions qui s'étaient posées à l'époque des croisés, quoi, qui avait dit que demande le peuple. Est-ce qu'il a répondu à cette préoccupation de l'exposé, quoi? Parce que le bilan du gouvernement, le compte du gouvernement, c'est résumé par l'exposé, quoi. Aujourd'hui, on peut parler de faire priver la super structure macroéconomique. C'était à l'époque du gouvernement champion de matérialiser macroéconomique nécessité. Et mon fils a dit, comme le jeu de Babé Oli, mais qu'est-ce que nous sommes dans notre petite fille de chaque jour dans la vie qu'on est congolais? Nous, moi, je vous ai enseignant, je regrette
ne fait maintenant pas même attention au projet du barème salarial qui commence à se faire en sanitaire. Rien du tout. Et aujourd'hui, nous apprenons des députés, des ministres en et qu'on a envoyé notre vie en hausse vers salaire. Aujourd'hui, nous, moi, je vous en ai combien d'enseignements. Même si on dit qu'on a, on va envoyer mon petit salaire en banque. Mais je serai humilié devant la salle de l'Onatra, les prochains frères, qui seront payés au même jour que moi. Donc, le premier ministre, il est encore faire pour qu'il vous réponde. C'est tellement nous voyons que la situation ne laisse pas fois au début d'un gouvernement. Il y a toujours, on relance la situation pour qu'on s'entende, je vais d'abord, et ça qui fait des aussi, dans le projet de l'agriculture, il a dit que l'argent est là pour l'agriculture. Donc, nous, population congolaise, nous allons attendre, lorsqu'il faut servir aussi le maïs, 3-4 mois après pour manger, et un insuffisant doit manger chaque jour. Voilà comment la population congolaise ne peut pas vivre dans la justice et les autorités dans le présent. Nous voyons qu'ils soient effectivement de voir ce discours qui parle à la population.
Oui, mais Ernest, si vous avez suivi le point de presse du Premier ministre au chapitre de l'éducation, il a fait mention d'ailleurs des résultats de l'examen d'État, de ces résultats qui sont publiés en temps réel, et ça c'est pratiquement un point positif à mettre dans ce bilan.
Mais quand il y a des résultats, ce n'est pas à la préoccupation. Dans quelles conditions ces enfants nous comportent aux antennes de la radio capitale pour dénoncer certaines réalités que nous vivons dans l'enseignement. Ils terminent le programme national correctement et conformément aux réalités. Donc on sait que la rentrée scolaire ne coûte pas pour nous, par exemple, nous commençons la rentrée au mois d'octobre, fin de novembre. Et que le ministre a dit à quelle date au mois de septembre, et que les rentrées scolaires se terminent. Savez-vous que la rentrée scolaire, par exemple, pour le CDF qui termine la première session, on doit moins de congés. Ça ne vient pas le ministre d'abord, n'a pas cette information. Moi, je le propose prochainement qu'il puisse aider au gouvernement national, c'est un gouvernement de proximité, pour qu'il puisse avoir des réalités sur l'intérêt de la population. S'il s'entend des conseillers et rapporteurs des conseillers qui sont dans les bureaux, vraiment, il va capoter que de faire des réalités de sens de ces gens de mission pour le faire, donc vous prenez des représentants à tous les fois à travers la République. Voilà la véritable évaluation de la population dans son milieu.
Merci beaucoup, Ernest. Donc, nous retenons que vos propos, vous le résumez, cette phrase de Félix Oisekoa qui demande le peuple, mais alors tout en vous rappelant également qu'au cours de ce point de presse, le chef du gouvernement a reconnu que les chemins à parcourir est long pour arriver au point l'équipe gouvernementale va mener autrement ses actions dans la perspective de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais. Donc je crois que c'est un problème qu'il prend à cœur. Mais Noé, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Noé.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment réagissez-vous, Noé?
Bon, pour moi, je trouve que quand on veut construire une maison, d'abord, à partir de la fondation, il faut qu'on puisse bien partir. Monsieur Matata Ponyo, au préalable, le gouvernement a été mal composé. D'abord, il a gelé la fille de
Voilà, là, non, il y a.
Alors, pour moi.
Oui, Noé, on a un petit problème avec vous, hein, un petit problème de communication. On prend d'abord Jean-Pierre en attendant que vous puissiez vous mettre dans une bonne position. Jean-Pierre, vous êtes ici. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, ici le journaliste et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Jean-Pierre, comment réagissez-vous?
Nous pensons que. Nous ne pouvons pas évaluer les actions d'un gouvernement dans 100 jours, mais les prémices des actions de ces gouvernements peuvent nous permettre de voir si qu'est-ce qui peut être la conclusion. Et pour cela, nous entendions voir les premiers ministres régler des choses sur son point, telles que la corruption. Et nous savons très bien que dans notre pays, la corruption gangrène la société et que ce sont des points sur lesquels il faut frapper dur pendant votre premier jour, pendant votre premier mois, pour que nous puissions voir en réalité ce qui peut avoir comme impact, puisque dans tous les domaines de notre pays, que ce soit les domaines des impôts et consorts, c'est la corruption qui gangrène les pays. Et autre chose, c'est que du point de vue sécuritaire aussi, nous entendions beaucoup de choses dans ce cadre-là, mais il n'y a pas eu vraiment d'avancée. Donc il n'y a pas tellement des actions palpables sur le terrain pouvant nous permettre avant que les prémices peuvent nous décrire les conclusions dans les jours à venir. Et le président de la République a dit que c'était un mandat des sociales. Et bon, lui, quand il fait les bilans des 500 jours, il parle plus du cadre macroéconomique, il parle plus des cadres. Donc c'est comme s'il se mettait un peu beaucoup dans le secteur économique, comme les mêmes économistes. Bon,
Jean-Pierre, vous avez suivi comme nous, disons, il a même fait mention de l'ouverture des pistes rurales avant d'annoncer l'exploitation prochaine du gaz méthane au Kivu. Donc c'est comme pour dire, il y a quand même des projets qui ont été concrétisés.
Non, monsieur le journaliste, ce n'est pas pour la première fois que nous puissions avoir des projets qui commencent dans notre pays. Mais nous savons qu'il y a des points sur lesquels il faut frapper dur pour que les choses puissent changer dans ce pays. Je pense que vous convenez avec moi que les problèmes de la corruption, de l'impunité, et des choses, ce sont des points sur lesquels il faut vraiment toucher pour que les choses puissent changer. Puisque les choses peuvent bien même commencer aujourd'hui et demain nous voyons encore la corruption reprendre, les personnes voler encore comme ils ont fait toujours. Mais si on sent vraiment une volonté de punir ces personnes-là, si on sent vraiment une volonté d'arrêter la corruption, ça peut évoluer. On peut commencer beaucoup de projets, mais si vous continuez toujours dans cette épidémie de la corruption, donc je pense que les choses ne vont pas changer. Il fallait qu'ils commencent à frapper par là pour que nous puissions sentir quelque chose sur terrain, même si ce n'est que 100 jours. Ces 100 jours vont nous prouver s'il est à mesure d'arrêter la corruption, s'il peut mettre des numéros que nous pouvons appeler pour accuser les personnes qui sont corrompues ou bien pour accuser les personnes qui sont en train de parfois l'argent de l'État, des choses comme ça. Donc ça peut au moins nous prouver que les choses peuvent changer dans les jours à venir. Mais il revient avec les projets comme les autres, au lieu de toucher les choses qui peuvent changer en réalité les conclusions du Congrès.
Oui, Jean-Pierre, vous avez appelé les Sureaux. Nous retenons que, selon vous, la corruption est devenue endémique en RDC et ça pourrait être quand même les premiers points qui devraient constituer le cheval de bataille du gouvernement congolais. Merci Jean-Pierre. Maman Mado, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, papa.
Comment réagissez-vous?
Bonjour, papa.
Oui, bonjour, bonjour, maman.
Vraiment, papa, je regrette. Je regrette le problème de notre gouvernement.
Oui, maman Mado, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur? Comme ça, on va bien. On va quand même s'entendre, hein? Parce que là, vous savez, vous nous prenez en retard.
Oui. Bon, je voulais dire ceci, papa. Nous autres ici, nous sommes des élèves. Nous avons des petits-fils, avec des petites-filles. Comment on va leur instruire à l'école?
Comment on va assurer leur...
Peut-être dans ces septembre prochain, les enseignants seront payés et nous autres, nous allons peut-être faire le problème des uniformes ainsi de suite. Mais vraiment, je me trouve entre l'enclume et le marteau, papa. Mais je m'attends que ça passe aussi pour nous les élèves qui sont restés avec des petits papa.
Voilà, merci.
Il a bien fait le travail, il a très bien fait. Pour moi, qu'on ne le critique pas. Il faut quand même
pense aussi voir
ce qu'il a fait là, peut-être lui donner au moins 50%. Mais s'il nous regarde, qu'il pense aussi pour nous les élèves avec les petits fils.
Voilà, là d'ailleurs ça se renvoie à la question sur la sécurité sociale. Ça sera d'ailleurs le sujet qu'on abordera demain. C'est vrai, comment assurer la retraite des agents qui ont travaillé et surtout aujourd'hui, et comment on peut arriver quand même à prendre en charge des personnes vulnérables. Rachel, vous êtes à Isiro, ça fait quand même un plaisir d'avoir une série de mamans, des femmes et qui appellent dans cette émission par les auditeurs. Rachel, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Oui, comment réagissez-vous, Rachel?
Oui, en fait, moi, je voulais dire si le Premier ministre est capable d'accomplir tout ce que vous avez promis. Bon, pour nous, ça serait mieux de démissionner parce que ça, juste que tu as beaucoup et nous, on n'a pas besoin d'État, nous, on ne voit pas l'État, ce sont les erreurs qu'on voit.
Voilà Rachel. Oui, Rachel, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle a été la feuille de route du gouvernement congolais? Est-ce que vous avez une idée?
Pardon?
La feuille de route du gouvernement congolais, est-ce que vous avez une idée? Parce que vous avez dit ce que vous avez promis. Vous nous avez promis quoi?
Bon, il nous avait promis plein de choses, de changer le Congo. Donc, rien dans la feuille de route. Donc, il n'a presque rien fait.
Est-ce que vous pensez que dans 100 jours, par un coup de bâton magique, tout allait changer? selon vous. Donc,
pas
c'est possible.
Non, pas tellement, mais déjà, quand même, voir quelques traces, quand même, que là, peut-être le courage pas de faire, le courage de faire.
Alors, vous vous attendez à quoi, concrètement? Dans quel secteur vous avez voulu juger le gouvernement, Rachel?
Bon, comme je peux dire, concernant d'abord le problème de guerre, il faudrait que ça se passe à l'est et là-bas. Et lui, là, il est en train de faire, mais il ne fait rien. Il ne fait rien, tout ça, dans tout ça, il faudrait que tu commences d'abord par les gérer tout ça.
Voilà, donc selon vous, le gouvernement a les mains croisées, hein, donc il ne travaille pas pour cette question, mais en même temps, on sait que lors du point de presse, le chef du gouvernement a même signalé qu'aux activités diplomatiques et politiques, qui a eu une percée diplomatique sans précédent, et a permis d'ailleurs d'identifier les auteurs de l'agression de la RDC dans sa partie est. Voilà, merci Rachel d'avoir appelé, nous avons Benoît qui est à Boma. Bonjour Benoît.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment réagissez-vous, Benin?
Bon, personnellement, ça les 100 jours de monsieur Matata Pono, le premier ministre, j'ai deux visions différentes. Et la première vision, c'est la vision qui ne tient pas compte des promesses faites par le président de la République, les promesses de campagne faites par le président de la République ici à Goma. Sans tenir compte de ces promesses, personnellement, je crois bien que les 100 jours de monsieur Matata Pono sont vraiment encourageants. Et personnellement, je suis optimiste s'il continue sur la même lancée. Parce que, tenant compte, quand il avait lancé, par exemple, le pied à valeur adaptée, avec l'expérience du passé, on pensait bien qu'on voulait encore tomber dans les problèmes qu'on avait commis avec les nouveaux Zaïre qui s'est passé auparavant. Mais quand il a lancé, je crois bien que la monnaie a gardé sa stabilité et ça, c'est quelque chose à féliciter. Aujourd'hui encore, il est en train d'expérimenter la paix par la banque. Je crois que c'est quelque chose de très encourageant, bien qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand nous voyons, par exemple, la proclamation des résultats des examens d'État, c'est quelque chose de très encourageant. Personnellement, je suis optimiste si on ne tient pas compte des promesses de campagne faites par le président. Et je peux donner 70%. Mais si on tient maintenant compte de la deuxième vision, si on tient compte des promesses de campagne faites par le président de la République, parce que le gouvernement Matata devrait aussi réaliser les promesses faites par le président de la République. Et là, maintenant, c'est une grande catastrophe. Ici, à Goma, le président avait promis que, aussitôt élu, les travaux devraient commencer dès le lendemain, parce que l'argent était déjà disponible. Mais aujourd'hui, il y a maintenant plus de 100 jours, mais on ne voit rien sur le terrain. Il avait promis qu'il va construire des universités, il va construire un grand stade, il va construire la voirie, mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien. C'est pourquoi j'ai dit que les gens doivent un peu comprendre et aider peut-être le gouvernement Matata et que Matata aussi prenne les choses en main. Lutter surtout contre la corruption, même dans les instances juridiques, au niveau de parquet, au niveau des tribunaux. Les magistrats, les juges qui sont censés lutter contre la corruption sont en train de changer les mots. Au lieu d'appeler la corruption, d'appeler la motivation. C'est qu'un juge, un magistrat qui vous demande de l'argent, au lieu d'appeler sa corruption, l'appelle motivation. Donc je vais demander à Matata de pouvoir continuer sur la même lancée et aussi frapper dur contre la corruption. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Benoît. 081-890-6315 pour faire contact à cette émission.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur notre page Facebook. Nasson de Lubumbashi dit ceci, le 100 jours du gouvernement Matata est largement négatif car il n'y a que des crépitements de balles. Tantôt au Kivu, à l'aéroport de la Luano, la population ne se trouve pas car elle s'enfonce de plus en plus dans la misère. Bref, il n'y a pas le respect du contrat social entre le gouvernement et la population. Philippe André Adrades de Pretoria dit ceci, le bilan est largement négatif. De la grève des transporteurs à la guerre au Kivu, au chômage des jeunes, à l'opacité de la gestion de la Respublica, de l'insécurité grandissante à l'injustice de nos cours et tribunaux, du clientélisme notoire dans les chefs de dirigeants à la diplomatie calamiteuse, le commun des Congolais s'interroge finalement, qu'est-ce qui marche? Voilà. Baraïga, janvier, dit avoir fait 100 jours, c'est bien pour un technocrate, mais où se trouve son talent et quel succès qu'il attend encore que de démissionner? Je doute qu'un premier ministre rescapé soit en mesure de gérer cette patrie de guerre et voilà, donc pour consommer leur budget. Donc jusque-là, on n'a pas encore consommé le budget, mais qu'ils sont protégés et pour d'autres fins. Gabriel venait de nous appeler de Kinshasa, nous prenons Maurice et qui est également à Kinshasa. Gabriel, bonjour.
Oui.
Gabriel, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, je vous avoue que je suis le journaliste.
Voilà, Gabriel, comment réagissez-vous?
En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup à dire parce que mes prédécesseurs ont déjà tout dit. En tout cas, selon moi, le fait de compter les jours, ça n'avance à rien vraiment. Nous, les peuples congolais, nous avons besoin de concret. Il peut faire même 100 000 jours et que rien ne se réalise. Là, on ne peut pas dire que non, parce qu'il a eu un peu de temps, il a eu beaucoup de temps. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de voir le concret. Donc, son bilan est négatif.
Merci, Gabriel. Maurice, vous êtes également à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, Maurice, comment réagissez-vous?
Bon, moi, je veux dire ceci. Il ne faut pas qu'on puisse prendre le mérite d'un gouvernement sortant et l'aide à l'actif de l'actuel gouvernement. Quand on parle de la stabilité du macroéconomique, de la stabilité des taux de change, tout ça, c'est, il faut mettre ça à l'actif de Adolphe Musique. Je pense que Matata, le peuple l'attendait sur des dossiers, par exemple le dossier de la justice et le dossier de la guerre à l'est du pays. Alors, puis comme vous le savez, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la justice, on parle directement du dossier de Floribert Chebeya, auquel tout le monde attendait que le nouveau gouvernement devait venir orienter la justice dans le sens propre de la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez, comme tout le monde, que cette histoire commence réellement à confirmer la thèse d'un crime d'État? Alors, tout en parlant de la guerre, j'ai suivi que vous avez parlé de que ce gouvernement nous a aidé à identifier plutôt
l'agression. De l'agression, oui.
Mais c'est la MONUSCO qui nous a aidé, c'est la MONUSCO. Pendant que la MONUSCO annonçait la présence des combattants rwandais sur le sol congolais, il y avait ce gouvernement qui nous disait que non, il fallait prendre ces nouvelles, cette information plutôt, avec beaucoup de réserves. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on puisse nous dire de n'importe quoi. Et que le peuple congolais, comme il est considéré toujours un type, un peuple type, qu'on peut toujours commencer à prendre et à considérer un gouvernement qui est irresponsable, qui est
juste oui, oui, Maurice, Maurice, de la justice. Oui, Maurice, vous êtes sans ignorer que la MONUSCO est partenaire au gouvernement congolais et travaille ensemble. Donc je crois que s'il y a des révélations qui ont été faites.
Bien sûr, monsieur le journaliste, mais pendant que la MONUSCO annonçait la présence des Rwandais dans le sol congolais, que disait le gouvernement? Il faut qu'on soit réaliste. On ne peut pas prendre le mérite des autres pour aller prendre le coller dans la piste de ce gouvernement.
Alors, qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous proposez, vous, Maurice, pour les jours à venir pour le gouvernement congolais?
Personnellement, je propose ceci. Étant que le gouvernement a échoué sur le plan pour mettre fin à la guerre de l'Est, il a échoué sur le plan diplomatique. Il a échoué, évidemment, sur le plan militaire, parce que sur le plan militaire, j'ai suivi la déclaration de Roger Mitt au Conseil de sécurité lors de la réplique rwandaise sur les accusations qui ont été portées sur son pays. Roger Mitt déclarait que la RDC ne disposait pas d'une armée qui peut faire face au M23. C'est-à-dire, sur le plan militaire, nous ne sommes plus là. Sur le plan diplomatique, il aurait vu les échecs pendant tous les sommets que la RDC est allée participer. Là, il nous reste que la politique interne. C'est-à-dire, cette guerre n'est pas.
Maurice,
les résultats sont aussi mal gérés à l'interne.
Oui, Maurice, mais il y a quand même quelques avancées ou quelques bons résultats par rapport au sommet. Au niveau du sommet de Kampala, on a, le gouvernement congolais a pu quand même arracher, a quand même pu arracher la présence donc de l'installation d'une force internationale neutre pour la question de la sécurité à l'Est.
Monsieur le journaliste, je pense que c'est une manœuvre dilatoire. Il n'y aura rien dans cette histoire-là. C'est vraiment c'est un feu de paille. Il n'y aura rien. Donc, il ne faut pas considérer cette histoire-là d'une armée qui viendra mettre la paix, faire la paix dans notre pays. Si on ne veut pas réconcilier la nation, je pense que tout ce qu'on va faire comme effort aujourd'hui, ça ne servira à rien. La fois passée, nous avons suivi que le Conseil de sécurité avait condamné le Rwanda. Mais lors de la réplique rwandaise, on a suivi la dernière déclaration, on a pu condamner le Rwanda comme agresseur de la RDC. Donc, nous devons supposer qu'en maintenant, le pays fait face à une rébellion interne. Donc, on doit réconcilier le peuple qui est divisé depuis les élections de 2011.
Merci beaucoup, Maurice. Merci de votre contribution. Ismaël, vous êtes à Goma. Bonjour, Ismaël.
Oui, bonjour.
Comment réagissez-vous?
C'est la radio Katine.
Comment réagissez-vous?
Bon, moi, j'ai réagi par rapport aux déclarations faites par notre professeur. Vraiment, j'ai dit que les 100 jours que le gouvernement Matta Sassonio est totalement négatif. Pourquoi? Je pense que Matta Sassonio est arrivé ici à Goma et il s'est rendu jusqu'à Bunagana au fond, là où il y a la guerre. Une fois rentré à Kinshasa, Monsieur Matta Sassonio n'est pas le prix de la guerre. Le gouvernement n'est pas le prix de la guerre. Mais tous les jeux restent maintenant braqués vers le sommet de la francophonie, là où on a décidé plus de 30 millions pour préparer le sommet de la francophonie. Au lieu de déclarer la guerre contre le Rwanda, parce que nous sommes agressés par le Rwanda, mais le gouvernement fait semblant comme si il y avait resté serein. Alors, c'est que moi je propose comme ça, c'est quoi? Parce que là, tu veux dire que les bébés à notre affaire. Et je crois que le gouvernement Matata n'aboutira aussi à rien, même si ça faisait plus de 100 ans. Mais ce que je propose, ce que je propose comme solution, c'est quoi? Le gouvernement devait d'abord déclarer la guerre, terminer la guerre qui est ici à l'est du pays, et après sécuriser nos frontières et sécuriser aussi l'intérieur du pays, là où les choses allaient marcher.
Oui, mais t'entends le chef du gouvernement dit que dans son équipe gère avec responsabilité la question de l'Est. Vous ne pensez pas, vous ne donnez pas quand même le crédit par rapport à ses propos?
On peut reconnaître presque toujours par nos politiciens. Hein? Ils sont toujours les discours qui cherche à satisfaire la population alors que c'est terrain, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est
voilà. Merci Ismaël. Cosma, vous êtes à Kisangani. Bonjour Cosma.
Bonjour Radio Kati.
Comment réagissez-vous Cosma?
Ok, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Bon, là je vois qu'il y a au moins des problèmes. Il y a des problèmes de volonté et des problèmes de système. D'abord, on commence par la volonté. M. Matta Sassonio est entré au pouvoir avec la volonté de faire quelque chose. Ça, c'est connu. Et cela s'affiche même avec la situation actuelle des nouvelles futures qui nous ont laissées au marché, mais qui garde quand même sa stabilité par rapport à l'unité monétaire. Ça, c'est connu. C'est la volonté de Matta Sassonio de faire quelque chose. Mais ce qui m'a empêché maintenant de dire certaines choses, c'est quoi? C'est le problème des systèmes. Donc, il est entré. Et chaque fois qu'on entre, on a fait dans un poste politique comme ça, il y a un système que vous trouvez là-bas, et difficile à déroger. Donc il est arrivé là-bas, on lui a dit, il a des conseillers, il y a des autorités qui sont sur lui. Et alors, il dit, écoutez, désormais, ce qu'il fallait faire, c'est ça et c'est ça. Ce qui amène même la démagogie des promesses de Matta Sassonio envers la population. Prenons le social qui était au moins au centre de tout ce qui était passé. Vous connaissez vous-même tout ce que Matta avait dit, tout ça. Bon, aujourd'hui, Matta est devenu Matta par rapport à l'argent, parce que toucher l'argent aujourd'hui, c'est devenu un casse-tête.
Bon, écoutez, il y a encore le problème de la sécurité. La sécurité qui est là, même si lui n'est pas le commandant suprême des FADC, mais il doit quand même avoir le droit de fusil et de regard. Tout ce qui se passe chez lui, parce que lui est d'abord de l'Est et il connaît ce qui se passe là-bas, et il doit avoir l'idée sur ça. Quand on peut parler même de l'inflation même des autorités ou bien des officiers des FADC, vous savez, du jour au lendemain, les autorités des officiers des FADC s'évadent et démissionnent l'armée et entrent dans la forêt. Tout cela explique l'incompétence de l'actuel gouvernement. Même si Matata sortait, monsieur le journaliste, les nouveaux Matata qui va entrer, il va toujours continuer le même système. Pourquoi? Parce qu'il y a le système. Donc, il y a une clé.
Voilà. Alors, Léna Cosma, vous proposez quoi? Parce que vous devez avoir quand même des propositions à faire.
Oui.
Parce que c'est vous qui terminez les débats.
Ce que je donne, c'est quoi? Il faut d'abord changer le système. Donc, il faut qu'on puisse savoir quel est le système qu'on peut utiliser qui peut être bénéfique à la population. Et le bon système, c'est attendre les réclamations de la population. D'abord, c'est la meilleure proposition. Et les autres intérêts qui vont par après. Vous connaissez tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale et partout. Vous voyez, les politiciens ne sont là que pour manger leur argent, pendant que la population est en train de souffrir. Je vous dis que l'on mène à l'Ituri ici chez nous. Ce qui se passe, c'est trop chaotique. L'insécurité vient de régner là-bas. Bon, alors, c'est changer d'abord le système politique et ramener à la volonté de la population de ce pays.
Voilà, merci Cosma d'avoir appelé et merci aussi d'avoir eu l'honneur de boucler ce débat du jour, la parole aux auditeurs et un coucou à tous ceux qui nous suivent. Akisangani Malela Gaylor nous a écrit, nous avons tiré de notre page Facebook, bonjour Radio Kapi, je suis Gaylor Malela de Lubumbashi, le bilan du gouvernement Matata, 100 jours après son investiture, n'est ni négatif ni positif dans la mesure où plusieurs politiques publiques sont mises en œuvre par le chef de l'exécutif national, à savoir Matata Ponyo, dans presque tous les domaines de la vie nationale. C'est après leur réalisation absolue qu'on peut juger de négatif ou de positif les bilans. Pour le moment, c'est un gouvernement qui se recherche encore avec le souci de réussir et de gagner le pari dans les prochains jours. Voilà. Donc, nous terminons cette émission donc avec cette mail de Gaylor Malela qui nous a écrit de Lubumbashi. Et nous disons merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Jean-Claude Siala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Comtesse Matouba l'ont réalisé. Ici, Arnaud Gembo vous l'a présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Réécoutez cette émission sur notre site web www.radiocapi.net.
Allô? 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 Mais qui ne répond pas?
Demain, Parole aux auditeurs s'intéressera à la gestion de la sécurité sociale dans les entreprises congolaises. Dans un communiqué officiel publié en début du mois d'août courant par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, l'autorité de tutelle a rappelé aux entreprises privées le caractère obligatoire d'affiliation des agents à l'INSS. Comment réagissez-vous face à ce rappel? C'est une question qui occupera le cœur du débat de Parole aux auditeurs demain. Inscrivez-vous déjà. À très bientôt.